Alors encore bonjour et bienvenue à chacune et chacun pour cette matinée ensemble. Encore une belle matinée que Dieu nous offre. Et on va encore prier ensemble. Seigneur, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons pensé, expérimenté ce matin, tu es au milieu de nous et nous voulons t'adorer, mais nous avons besoin de toi pour que tu ouvres nos yeux. Pour que par ton esprit nous puissions comprendre, pour qu'au-delà de notre intelligence naturelle, notre être spirituel puisse recevoir de toi ce matin, être en communion avec toi, être nourri, enrichi, corrigé, conduit par toi. Et nous nous réjouissons parce que nous pouvons le faire dans ta présence, mais aussi les uns avec les autres en communion. Merci pour ce moment et vraiment rempli-nous de toi, Seigneur Dieu. Amen. Amen. J'aimerais lire deux textes, un dans les évangiles, un dans l'épître aux Corinthiens. On va commencer par Jean 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Le contexte, vous connaissez, je pense, tout le monde, cette histoire. Jésus parle avec une femme, déjà une chose étrange, les hommes ne parlaient pas aux femmes comme ça dans la rue. En plus, il parle avec une femme samaritaine. Les Juifs ne parlaient pas avec les Samaritains. Et c'est cet endroit-là bien précis, ce moment-là, que Jésus choisit pour nous communiquer un enseignement tout particulier et très important pour chacun d'entre nous. Alors, je lis ces quelques versets. Jean 4, verset 20. C'est cette dame qui pose une question à Jésus. Parce qu'elle vient de reconnaître qu'il était quelqu'un de particulier, elle dit un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, sous-entendu vous les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas? Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et puis dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on peut les apprécier. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. J'aimerais ce matin qu'on essaie de faire un petit tour sous la surface. Je pensais à plusieurs images pour essayer d'illustrer ce que j'avais envie de partager par ce message. J'ai grandi dans le sud de la France, j'allais souvent faire de la plongée dans la Méditerranée, et j'étais toujours surpris quand je passais sous l'eau, la différence qu'il y avait entre la mer vue des rochers, cette surface comme ça avec des couleurs bleues, vert, ça dépend du temps, hein. Et puis on plonge, on passe dessous, et ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Il n'y a plus les bruits de l'extérieur, il y a une autre lumière, il y a un autre éclairage. On a l'impression que le temps est différent, que les choses sont un petit peu au ralenti. Hein. Vous avez les poissons, les algues qui bougent, etc. Et puis, on sort et de nouveau, c'est le bruit des vagues, les mouettes, tout ce qui se passe à l'extérieur, le vent. Il y a une différence entre ces deux choses-là. Et pourtant, c'est la même chose, mais vu depuis l'extérieur ou vu de l'intérieur. Et en même temps, je trouve l'image est intéressante parce que quand on est sous l'eau, à moins que ce soit différent pour certaines personnes, et pourtant j'aime énormément l'eau et j'aime bien être sous l'eau, mais on s'aperçoit très vite, c'est pas mon monde. J'y suis pour un petit moment, j'aimerais bien pouvoir, comme les poissons, respirer sous l'eau, avoir des branchies, puis pouvoir les observer, mais rapidement, eux sont chez eux et c'est pas chez nous, on doit ressortir respirer, mais parce que c'est beau, on a envie de retourner. Et je pensais à ça, pourquoi ? Parce que je pensais au thème de l'adoration, d'être en communion avec Dieu par l'Esprit. Et j'ai réalisé combien de fois, quand j'ai lu moi-même ce passage de Jean 4, où j'ai entendu des messages dessus, et finalement, il me semble, on parlait de ça d'un point de vue depuis l'extérieur, hein, en associant des versets les uns aux autres. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors Dieu est esprit, la vérité, ta parole est la vérité, conduis-nous dans la vérité. Et puis on met les versets les uns au bout des autres comme ça, et puis on dit que ça fait une doctrine ensemble. C'est vrai. Ces choses-là sont vraies dans le sens où elles ne sont pas fausses. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité est plus que quelque chose qui est vrai parce que c'est pas faux. La vérité est vivante. La vérité est une personne, pas une personne physique. Bien sûr, Jésus a marché physiquement sur terre, mais la vérité n'était pas dans ses mains, ses doigts, ses cheveux. Si on avait pu momifier ou congeler son corps, la vérité n'était pas dans ces éléments-là. La vérité, c'est la pensée de Dieu. Et Paul reprend ces choses-là de façon à la fois clair et à la fois difficile. Je ne sais pas pour vous, mais ce passage de 1 Corinthiens 2, c'est un passage auquel je reviens très souvent, qui me touche toujours, que je trouve très riche, et en même temps, j'ai toujours l'impression de passer à côté. Parce que ça parle de choses qui font partie d'un monde où on fait des incursions, mais où on ne vit pas tout le temps. Nous ne vivons pas tout le temps dans notre esprit, en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est ce vers quoi nous tendons, c'est ce qui serait idéal, c'est ce que nous vivrons un jour, quand Christ va revenir ou quand nous quitterons cette terre. Pour le moment, oui, nous sommes là, nous le voyons, et puis j'espère de temps en temps, souvent, régulièrement, on va dans ce monde-là et on se dit, c'est quelque chose. J'entends pas bien, je respire pas bien, c'est pas vraiment mon monde, mais en même temps, c'est le mien. C'est là où je vivrai plus tard. Et puis, Paul explique ces choses-là, lui aussi, avec ce qu'il avait, parce qu'il avait une grande compréhension de ces réalités-là, mais du mal, comme nous tous, quand il faut les traduire avec des mots. Déjà, il y avait toute une partie, il n'avait pas le droit de nous dire, alors ça complique un petit peu, il nous explique ailleurs. Et puis même ce qu'il pouvait nous communiquer, il utilisait ce qu'il avait, sa culture, ses mots, son langage. Mais heureusement pour nous, et c'est pour ça, c'était le sens de ma prière, et c'était pas une prière que je faisais par habitude, c'est que si le Saint-Esprit ce matin vient pas dans chacun de vos cœurs, prendre un petit peu de ce qui est dit ce matin au travers de ces versets, et vous le transmettre, on aura passé un moment sympathique, mais j'aurais parlé pour rien. Parce que je ne vais rien vous apprendre, vous les connaissez ces versets. Ce que je vais dire, vous l'avez déjà entendu, vous le savez. Vous l'avez vu, comme moi, depuis les rochers. On a vu les vagues bouger, on a mis les idées en place, on sait qu'après ce verset, il y a celui-là, on connaît cette doctrine, on connaît ce sujet, etc. Mais ce que je nous souhaite ce matin, c'est que pendant ce moment de communion avec la pensée de Dieu, on puisse pour un petit moment mettre notre masque, nos palmes. Malheureusement, on n'a pas les bouteilles pour rester, on sera juste en apnée un petit peu. Passer sous l'eau et puis être en communion avec la vie de Dieu, la pensée de Dieu. C'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est pas quelque chose qui est lié à ce qu'on ressent, ou j'ai un petit frisson dans le dos ou pas. Rien à voir avec ça. Nous avons un esprit qui a été déconnecté de la vie avec Dieu au moment de la chute, on n'y était pas, mais on en a hérité, qui par la nouvelle naissance a été reconnecté avec l'Esprit de Dieu. Et maintenant, nous avons cette possibilité extraordinaire d'être en communion avec Dieu absolument n'importe où et n'importe quand. Cette dame qui parlait avec Jésus avait des questions techniques sur la forme. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem et nous, nous pensons que c'est sur la montagne de Samarie. Aujourd'hui, dans notre contexte, on pourrait dire, est-ce qu'on doit prier debout ou à genoux? Est-ce qu'on adore Dieu en levant les mains ou pas? Est-ce qu'on doit chanter des cantiques comme ça ou pas? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser une batterie ou non? Est-ce qu'on doit prier en marchant ou pas? Et on a des questions comme ça sans arrêt, hein. À haute voix, pas à haute voix, avec des bougies, sans les bougies, dans un bâtiment qui s'appelle une église ou pas. Et Jésus prend même pas le temps de répondre à ces détails-là. Vous me parlez carrosserie, moi je vous parle ce qu'il y a à l'intérieur. Vous me parlez de ce qu'il y a, ce qui se voit, moi j'en viens au cœur. L'heure vient, elle est déjà venue, maintenant, parce que Jésus était là au présent, hein, où les vrais adorateurs, c'est pas le fait qu'il y a des vrais et des faux, hein. À ce matin, alors lui c'est un vrai, lui c'est un faux. Non, c'est pas ça. C'est le fait que on peut par moments adorer Dieu dans la réalité, puis des fois, non. Parce que l'adoration, peu importe la forme, c'est une réalité spirituelle. Si la réalité spirituelle est là, alors elle se traduit par n'importe quelle forme. Quand je dis n'importe quelle, c'est pas n'importe quoi, mais elle peut prendre des formes très diverses et variées. Si elle y est pas, alors la forme n'a pas de sens. Je prends un exemple tout simple, hein. L'amour fait partie des choses qui se voient pas. Si j'aime quelqu'un, et puis je vais lui offrir des fleurs, ou faire sa vaisselle, ou tondre son jardin, ou lui dire un petit mot, ou lui dire une phrase qui a pas de sens, mais parce que je l'aime, le geste que j'ai fait est un geste d'amour. Mais tous ces gestes-là, et même si on faisait la liste, elle est impossible à faire, de toutes les façons dont les êtres humains ont traduit l'amour depuis que les êtres humains existent, et que je les essaye toutes les unes après les autres, ça fabriquerait pas l'amour. Je peux offrir des fleurs sans amour, faire la vaisselle, tourner là, je peux avoir des relations intimes avec quelqu'un, je peux lui dire des poèmes, lui en écrire, je peux faire tout, même donner ma vie pour quelqu'un, mais ça veut pas dire que je l'aime. Et parce que je l'aime, ce que je vais faire a du sens. C'est la même chose avec l'adoration. Ce que Dieu veut, c'est pour ça qu'il nous a créés, c'était comme ça avant la chute et c'est après avec la nouvelle naissance. Ce que Dieu veut, c'est être connecté avec nous par notre esprit. Nous en lui et lui en nous. Ça c'est ce qu'il a toujours voulu. Et c'est son plan n'a pas changé. Il y a eu des accidents de parcours, il y a eu une progression dans la révélation, il y a eu toute une évolution et souvent je me dis c'est amusant, je pense que Dieu et les anges doivent sourire parce que la petite histoire de notre technologie des communications ressemble un petit peu à l'histoire de la communication entre Dieu et l'homme. Au départ, comment faisaient les hommes quand ils voulaient communiquer, si je voulais envoyer un message à mes parents qui habitaient de l'autre côté du pays? Il fallait que j'envoie quelqu'un qui court et qui amène le message. Soit il répétait, soit s'il savait déjà écrire, il gravait sur quelque chose, soit il transmettait. C'était le début. Et puis, ça a progressé au fil des ans. Et puis, il y a eu le télégraphe. C'était extraordinaire. Mais c'était quand même d'un point bien déterminé à un point bien déterminé. Puis, il n'y avait que les gens qui savaient qu'ils pouvaient l'utiliser. On peut penser autant au temple qu'au tabernacle. On devait se déplacer, aller là et confier notre message au prêtre qui lui traduisait. Alors on égorge la chèvre, on prend la colombe, on prend le sang, les plumes, on fait le bazar, on revient. Et quelque part Dieu à l'autre bout recevait. Bien sûr c'était symbolique, c'était l'image des choses à venir. Mais et puis Christ est venu et là c'était intéressant. On avait alors le point était unique, il pouvait pas être à deux endroits en même temps, mais là c'était intéressant. On avait les premiers points de communication modernes. Jésus était là, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais s'il était avec Jean, il n'était pas avec Pierre. S'il était à Jérusalem, il n'était pas en Galilée. Il était qu'à un endroit à la fois. Voilà, on pourrait dire c'était un petit peu comme un téléphone fixe. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas le téléphone, ma grand-maman l'avait. Alors, quand on recevait un coup de téléphone, elle tapait sur son balcon avec son balai, et ma maman sortait, descendait, traversait la cour, montait chez elle, et prenait le téléphone. Et on trouvait ça extraordinaire. On pouvait communiquer par téléphone. Et puis, on a eu notre propre téléphone. Et puis, il y a eu les fax. C'était super. Et puis, les Natel. Et puis, aujourd'hui, on est connecté partout, tout le temps, en permanence, de plein de moyens différents. Et je trouve que c'est super, on a de la chance. Parce que Paul n'avait pas ces images-là. Je suis persuadé qu'il les aurait utilisées s'il les avait eues, mais il ne connaissait pas ces choses-là. Et Dieu qui suit ça du haut du ciel sourit en se disant, s'il faisait autant de progrès dans le domaine spirituel que dans le domaine technologique, ça serait bien pour l'humanité. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas du tout. On n'a pas progressé sur le reste. Mais l'idée est toujours la même. Et c'est extraordinaire de réaliser que, justement, à part quelques privilégiés, parce qu'on pourrait dire, quelqu'un comme David, par exemple, il a reçu un téléphone portable à l'époque où rien existait, quoi. Et ça, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, quand il avait fait des bêtises, et je dis bêtise, le mot est léger pour ce qu'il avait fait, tuer son meilleur ami pour prendre sa femme, c'est pas mal comme bêtise, il avait une peur, c'était laquelle ? Seigneur, fais tout ce que tu veux, mais laisse-moi mon téléphone. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que dans cette époque-là, il était conscient, les autres n'ont pas ça. Moi, je l'ai. C'est exceptionnel, c'est rare, et ça peut aussi m'être retiré. Ça avait été retiré à d'autres avant lui. Donc, il y a eu quelques petits privilégiés comme ça qui ont eu avant l'heure. Aujourd'hui, nous tous qui sommes enfants de Dieu, qui avons reçu Christ et qui avons reçu son Esprit, à ce moment où nous avons cette nouvelle naissance qui s'est passée, beaucoup de choses mystérieuses, où nous avons été immergés dans le corps de Christ par son Esprit pour former un seul corps, nous nous sommes retrouvés tout d'un coup à faire partie de la grande communauté des gens connectés avec Dieu, en permanence de sa part. De notre côté, on peut éteindre ou allumer, quoi. On l'a entendu dans plusieurs des chants que Sam avait, encore une fois, très bien choisi, conduit par l'Esprit de Dieu. Dans ce silence, j'ai noté quelques phrases, mais dans ce silence que je me taise pour entendre ta voix. C'est joli, ça. Dans le silence, on n'a pas besoin de se taire normalement. Mais dans le silence, nous faisons du bruit et je dois me taire pour entendre sa voix. Pour chacun de nous, c'est particulier. Si on avait le temps et qu'on demande à chacun d'expliquer... Comment ça se passe quand vous vous connectez à Dieu ? Là aussi, chacun a son interface, chacun a ses formes. Et si on discutait là-dessus, on pourrait à la fois être émerveillé ou se disputer. Ah mais non, ça se passe dans ma chambre, à 7h du matin, je me mets à genoux, là, tourné de cette façon-là, là, j'ouvre ma Bible, et l'autre dirait, mais pas du tout, moi c'est dans la voiture quand je vais au travail, et ah mais absolument pas, moi je dois marcher dans la nature, ah non, moi j'ai besoin de musique, ah non, moi, j'en sais rien, c'est jamais deux fois pareil, ou pas souvent. Mais ce que Dieu veut, c'est que notre esprit puisse être connecté au sien, en esprit, pour être en communion avec la vérité, la pensée de Dieu. Et ce que dit Paul dans ce texte-là, alors on peut dire c'est Paul, mais Paul était comme nous, un être humain, racheté par grâce, le premier des pécheurs, il le dit, et il le croyait, vu ce qu'il avait fait lui aussi. Or, nous avons la pensée de Christ. Ça, c'est orgueilleux quand même. Qui a la pensée de Christ ? Mais ça ne veut pas dire que même Paul, qui avait compris et expérimenté beaucoup plus que nous, prétendait pas posséder la pensée de Christ dans sa plénitude. Il avait pas cette... Il n'était pas bête pour penser ça. Mais il savait qu'il pouvait être connecté avec la pensée de Christ. Et donc, la posséder, dans le sens où j'en fais partie, je le vis. Il y a un exemple, pour ceux qui m'écoutent régulièrement, je le reprends toujours parce que je n'ai pas trouvé de meilleur. Il n'est pas de moi, je ne sais plus où c'est que je l'ai lu, mais une petite bouteille perdue au fin fond de l'océan. Elle est une bouteille vide, je veux dire, au départ, jetée dans l'océan, qui coule, qui se pose au fond. Et elle peut dire, je suis dans l'océan et l'océan est en moi. J'ai la pensée de l'océan. Mais j'aime cette image parce que souvent, quand je suis en communion avec Dieu, c'est à ça que je pense. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. La bouteille n'est pas bête pour penser qu'elle contient l'océan. Mais en même temps, elle sait qu'elle contient l'océan. Vous voyez ? Nous pouvons nous perdre en Dieu en restant nous-mêmes, parce que la bouteille est distincte de l'océan. C'est pas une pensée où on se confondrait avec le grand tout et puis on n'existe plus, non. Il y a quelque chose de ça, mais c'est pas ça. On reste nous-mêmes. Je suis cette bouteille avec cette forme-là, avec ses fêlures, avec ses, le goulot est un petit peu abîmé parce que quand on l'a ouverte, ça a eu un choc. Et puis en tombant au fond, elle a touché une pierre. Et puis, mais elle est dans l'océan et l'océan est en elle. L'adoration commence avec ça. Je suis en communion par mon esprit avec la pensée de Christ. Lorsque cette chose-là est réelle, alors l'adoration, la louange, tout le reste peut prendre sa place et va trouver des façons de se manifester dans le monde réel. Et là, honnêtement, ce qui va faire la différence, c'est le tempérament, la culture, l'éducation, l'époque où on vit. Mais c'est tout. Et c'est pour ça que il vaut mieux qu'on ne s'occupe pas de juger comment les autres vivent leur vie chrétienne dans ces domaines-là. Parce que j'ai aucune face. C'est déjà assez compliqué pour moi. Comment je peux savoir si ce que vit mon frère là, c'est juste une agitation extérieure, hein, ou est-ce que c'est la conséquence du fait qu'il est connecté à la vie de Dieu? J'en sais rien. Ça tombe bien, c'est pas mon boulot de savoir. Je dois juste m'occuper de moi et ça suffit. Et on a des exemples dans la Bible, hein. Par exemple, si on avait vécu à l'époque de David et qu'on ait vu ce gars-là tout d'un coup se mettre à danser en pleine congrégation, danser à tel point que ses habits glissent et que ça dévoile un peu trop son anatomie, on va dire ça gentiment. Et puis il n'est pas conscient qu'il y a peut-être des enfants, en tout cas il y a des femmes, etc. Et il est en train de danser et il danse tellement que ben voilà, il se donne un peu un spectacle et puis il s'expose. Il rentre chez lui et là il prend un savon par son épouse. Mais qu'est-ce que c'est? Mais tu quand même, tu es le roi et puis tiens, quelle est la réponse de David? Elle est belle. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Bon, il en profite pour envoyer une petite pique. Hein. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père. Et toc pour le beau-père. Bon, David était un homme comme nous. Mais honnêtement, moi je me dis, nous on lit cette histoire, elle est tellement loin de nous culturellement dans le temps. Bon, c'est une histoire. Mais si j'avais vécu à l'époque de David, est-ce que j'aurais pensé comme son épouse? Honnêtement, je pense que oui. Ça se fait pas pour un roi, c'est pas correct. Et le témoignage, et qu'est-ce que vont penser les autres, et la femme du voisin, et les enfants, et les... Il se trouve que dans ce cas, il n'y en a pas un deuxième dans la Bible. On n'en fait pas une doctrine. Personne n'a dit danser à moitié nu devant l'assemblée, c'est la bonne façon de louer Dieu. Heureusement, on n'est quand même jamais arrivé à des bizarreries pareilles. Hein. Mais il se trouve qu'une fois, et c'est relaté dans la Bible, c'est arrivé. C'était sa façon à lui cette fois-là. Encore une fois, on ne va pas l'imiter. mais oui, maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qui se font, qui ont l'air tellement bien correctes. Hein. Je viens avec ma Bible sous le bras, j'ai la cravate, la chemise est bien rentrée dans le pantalon, et j'ai le veston dessus, et il y a la croix là où il faut, et je lis les bons versets, et je dis ce qu'il faut, et j'ai la voix qui convient, vous savez, la belle voix pour lire les textes. Il y a tout, et les gens ont presque une larme à l'œil tellement que c'est beau. Et peut-être il n'y a rien derrière. La bouteille n'est pas dans l'eau. Mais des fois, il y a toutes ces choses-là, et ça y est. Ah ah, Dieu rit. Hein. Cette montagne, celle-là, ici, lui, c'est les catholiques, c'est les protestants, c'est les orthodoxes, c'est les évangéliques. Oubliez tout ça. Il y a des êtres humains qui doivent être connectés à Dieu par l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, en relation avec l'esprit de l'homme. C'est possible uniquement après la nouvelle naissance, donc ça élimine déjà beaucoup de choses. Hein. En communion avec la pensée de Christ, la vérité. Lorsque vous êtes rempli de cette vie-là, faites ce que Dieu vous demande de faire. Manifestez-le comme vous voudrez. Et parce que Dieu nous respecte, ben, selon votre tempérament, quelqu'un va juste fermer les yeux, rester dans le silence et être bouleversé par cette adoration silencieuse. Et un autre va prendre sa guitare, va mettre la disto à fond, et puis va sauter en louant Dieu. Pourquoi pas? Si c'est pas trop près de mes oreilles à moi. Mais, etc., etc. Dans le respect les uns des autres. Alors, effectivement, quand on a une vie communautaire, on va s'entendre minimum, on a des conventions, on est à une époque, dans un pays, dans une culture, avec une tradition, et par amour, l'Esprit de Dieu ne nous pousse jamais à faire des choses qui vont faire du mal, du tort, provoquer l'incompréhension au point qu'on ne s'entende plus avec les autres. Alors on a des conventions et on les utilise. C'est bien. Dieu a voulu qu'on soit comme ça. Ça s'appelle la civilisation, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, mais c'est indispensable pour que les êtres humains puissent vivre ensemble. Donc on rejette pas ces choses-là. Mais ce que je veux juste dire ce matin, c'est s'il n'y a pas la réalité derrière, ça ne sert à rien. Les plus beaux bouquets du monde, les plus beaux voyages à l'autre bout du monde, les plus belles déclarations, les poèmes, les tout ce que vous voulez, les morceaux de violoncelle sur le coucher de soleil, ne fabriquent pas l'amour. Mais quand l'amour est là, alors on peut apprécier le violoncelle sur le coucher de soleil et les bouquets de fleurs, ou peut-être juste un mot, une phrase, un petit truc. Tiens, j'ai fait la vaisselle pour toi ce soir. L'amour est derrière, c'est magnifique. Et c'est ce que Dieu veut, en esprit et en vérité. Je voudrais juste rajouter un dernier verset, le psaume 50, 23. « Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire, et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne. » Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. La reconnaissance, on doit comprendre ce mot dans le sens le plus littéral. Quand je reconnais quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Je croise quelqu'un, je n'avais pas vu qui c'était, et puis je le reconnais. Moi, ça m'arrive souvent parce que je suis très distrait. Donc, je marche dans la rue, puis je croise quelqu'un que je connais bien, mais je ne l'ai pas vu. C'était quelqu'un qui passait, mais je ne l'ai pas vu. Hé, hey, Philippe! Oh, pardon, je ne t'avais pas reconnu. Salut, Eric. Bonjour, ça va? Reconnaître. Dieu est omniprésent, il est partout, forcément. Mais nous, nous sommes distraits par rapport à Dieu. On marche dans nos vies. Et Dieu est là. Et puis, je dirais, du matin au soir, il essaie de nous rencontrer au café. « Eh, salut !» Au moment où on part au travail, au moment où on revient, toute la journée, il nous cherche. Nous, on est occupés avec nos vies tellement importantes. J'ai une vie, moi. C'est une expression qu'on entend beaucoup. Dieu dit « Oui, c'est moi qui te l'ai donné. » Moi aussi, j'en ai une. Mais enfin, à un moment ou à un autre, dans la journée, quand même, tout d'un coup, on sort de notre torpeur. « Ah, Seigneur, comme Jacob, tu es dans ce lieu et moi je le savais pas. » Dieu sourit. Oui, je suis dans ce lieu, dans les autres aussi. Je suis partout. D'où cette belle citation de cette dame française. Mon Dieu, si tu es partout, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs? Mais c'est l'histoire de nos vies. Et là, tout d'un coup, comme Jacob, comme d'autres, comme tous les croyants, on le reconnaît. Quand je le reconnais et que je reprends ma place dans cette circulation de vie, la vérité qui habite en moi par l'Esprit de Dieu, c'est ça qui glorifie Dieu. Et là encore, selon le moment, l'endroit, mon tempérament, ma culture, où je vais rien dire, simplement là, cette louange est en moi, et je loue Dieu par le fait que je l'ai reconnu, soit je vais le dire à haute voix en levant les mains, soit je vais le dire sur un ton très sérieux, soit je vais l'écrire, je vais le chanter, je vais le peindre, j'en sais rien, c'est pas important. Mais quand je prends la place que Dieu a voulu pour moi, je suis en train de le louer et de l'adorer. J'aime bien regarder les reportages animaliers. Et j'ai toujours été émerveillé par ce film « La marche de l'empereur ». Pas celle de Napoléon, celle des animaux. Et puis, quand j'ai vu ce film, je dis souvent que c'était un des plus grands moments de louange de ma vie parce que je me disais, j'arrêtais pas de dire, ça c'est le Dieu que je connais, ça c'est le Dieu que je connais. Et ces animaux qui vont naître à un endroit toujours le même, ça fait des milliers d'années, ils reviennent à cet endroit-là et pas à un autre, et puis qui partent marcher pendant un mois, chercher de la nourriture, la ramener, pendant que les autres ont les œufs sur les pieds qui tournent en rond pour résister au froid, et que les femelles font les chats, et que 5 ans après, ils vont... C'est extraordinaire. Ils sont à leur place, ils font ce pour quoi ils ont été créés, et en faisant ça, ils louent Dieu. Les psaumes sont pleins de cette constatation. Quand les psaumes disent les bêtes des champs, les arbres, le ciel, la nature louent Dieu. Pourquoi elles louent Dieu? Parce que contrairement aux hommes, et malgré les hommes qui font tout pour l'en empêcher, la nature fait ce pour quoi elle a été créée. C'est ça louer Dieu. pas s'imaginer que David pensait que les arbres, la nuit, se mettaient à parler et disaient « Gloire à Dieu, Alléluia !» Non. Quand un arbre pousse, quand un arbre fait la photosynthèse et transforme en oxygène le gaz carbonique, il loue Dieu. Quand un poisson nage dans l'eau, il loue Dieu. Quand un oiseau vole, il loue Dieu. Je l'ai créé pour ça et il le fait. Lorsque je suis connecté avec l'Esprit de Dieu, en esprit et en vérité, je loue Dieu, j'ai été créé pour ça. C'est ça la louange, l'adoration, la communion avec Dieu. Voyez. Et après, quand on va se retrouver dans ces moments particuliers, le dimanche matin chez nous, dans notre culture, à 10h, dans une salle, voilà, hein, qu'est-ce qui devrait se passer? Ben, on va mettre en commun tous ces moments où on a été à notre place pendant la semaine. Ces petits bouts de temps où on a plongé sous la surface et on a vécu dans le monde de l'Esprit de Dieu, dans la vérité. Il y en a forcément dans la semaine quand même quelques secondes, quelques minutes. Enfin, des fois, on peut avoir une mauvaise semaine et passer à côté toute la semaine. Mais comme on est nombreux, ou pas nombreux, mais quelques-uns, ça peut quand même pas arriver que dans la semaine, tout le monde soit passé à côté tout le temps. Je veux pas le croire. On est le corps de Christ. Et là, on se retrouve et on vient mettre ensemble ces petits bouts. Et puis, ben, y a des chants qui ont été écrits déjà à l'avance, et puis qu'on projette ici, et on les chante parce qu'on sait lire, parce qu'on a entendu, parce qu'on sait à peu près chanter juste. Mais qui peut dire derrière ce qu'il y a? Personne, Dieu le sait. Hein? Mais tout d'un coup, toute cette vie qui est en nous, ben, elle est là, et elle se manifeste dans ces mots qu'on dit, ces chants, dans les regards qu'on échange, dans ce qu'on vit ensemble, dans notre compréhension du texte biblique, dans ce qu'on va vivre après, et on glorifie Dieu. Et Dieu est fier. Et Dieu peut, comme dans le livre de Job, se pencher, appeler Satan et dire « Oui, je sais que tu n'as pas envie ce dimanche. Viens ici. Regarde. Tu vois mes enfants? Oh oui, oui, ils sont pécheurs. Oui, ils sont pas parfaits. Oui, ils font des... Regarde un peu. Tu as vu tout ce qu'ils ont vécu? Regarde ces petits bouts de vraie vie là, qui sont rassemblés ensemble pour me glorifier. C'est beau, hein? Il n'est pas content. Mais c'est la réalité. C'est comme ça que nous louons Dieu ensemble. Et puis, ben, y a tout le reste, le décorum, tout ce qu'il y a autour, et puis on fait avec, c'est bien. Mais nous avons besoin de la réalité. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce domaine-là, il n'y a pas de spécialiste, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Ça n'a rien à voir même avec la connaissance. La connaissance est utile, hein, mais ce n'est pas parce que je connais beaucoup que je suis mieux connecté. On a tous les mêmes outils en tant qu'enfant de Dieu pour se connecter à Dieu. Et de son côté à lui, il est toujours connecté. Alors, soyons conscients de ces choses-là. Et puis, peut-être, ça va nous encourager à mettre nos efforts dans une autre direction. Au lieu de se dire, ah, il faut plus que je fasse les mêmes erreurs. Il faut plus que, il faut pas que, il faut plus que. Et d'être dans une vie chrétienne négative. Il faut que je sois connecté à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que le problème ne vient pas de toi, mais j'ai quand même un problème, il y a de la friture sur la ligne. Je t'entends pas, je te vois pas, je vis pas avec toi. Oui, c'est pas de ton côté, je sais, mais même pour ça, j'ai besoin de toi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le système de communication divine, la hotline fonctionne super bien. Le service client est parfait. Jamais vous avez, désolé, en ce moment nous sommes trop occupés, il y a trop de demandes, veuillez rappeler ultérieurement. Non, jamais. Hein? Le Saint-Esprit technicien céleste, toujours disponible quand nous nous tournons vers lui. Alors bien sûr, il faut peut-être s'arrêter, faire un peu de silence intérieur, prendre un petit peu le temps, mais ça peut aussi se passer en conduisant, sous la douche, en allant à l'école, en allant chercher les enfants, en faisant le ménage, en tondant la pelouse. Mais on fait du calme dedans, puis Seigneur, ici ou là-bas, c'est pas grave, mais j'ai besoin de toi. Et je veux vivre avec toi. Et je veux être en communion avec tes pensées. Et puis, ben, on sait pas l'expliquer, on sait pas le dire avec des mots, mais ça se passe. On est connecté avec Dieu. C'est pas spécialement émotionnel ou pas. On est dans la présence de Dieu. Et on est bien. Et c'est ce qu'on veut vivre. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que c'est tellement grand, c'est tellement immense, ça nous dépasse. Tu vis en nous et nous sommes en toi. Et c'est une réalité et un mystère, mais ça nous éblouit, ça nous émerveille. Et nous voulons que cette vie que tu as mis en nous, cette pensée qui vient de toi, habite pleinement en nous. Qu'elle conduise nos vies dans tous les aspects de nos vies. Qu'elle conduise nos pensées, nos émotions, nos réflexions, nos actions, bien sûr. Et que nous puissions toujours plus vivre proche de toi. Prendre toujours plus le temps. Être toujours plus conscient de ta présence à chaque instant, dans chaque situation. Fais ce travail dans nos vies, dans nos cœurs, surnaturellement par ton action, par l'action de ton esprit. Merci pour ta parole qui nous permet de comprendre, de saisir avec des mots. Merci pour ton esprit qui donne vie. Et merci pour la communion fraternelle qui nous permet d'être souvent au bénéfice de la connexion de nos voisins quand la nôtre est un peu encombrée et de la retrouver avec toi aussi. Merci pour cette belle journée, pour ces moments ensemble. Merci pour ta présence et garde-nous en toi, Seigneur. Amen.